I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick drive.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 642 du podcast Jeune Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour débriefer la quatrième semaine de NFL. J'ai une semaine d'avance. À mes côtés pour le faire, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël qui a survécu des choses terribles pour arriver à ce podcast. Vous pouvez pas imaginer, il a failli ne pas être là, il s'est battu avec la nature.
Ouais, c'était compliqué, on s'y attend pas en vivant en région parisienne d'affronter la nature et des fois ça tombe dessus et voilà.
Man versus wild. Quoi,
ah bah là, ouais, c'était ça.
Man versus Frolon. Lucas, voilà, bonjour.
Salut Alain, salut tout le monde.
Messieurs, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu d'une nouvelle star aujourd'hui. On va parler d'un vieux coach aussi et d'un match à Londres. C'est le programme de la semaine. On vous rappelle évidemment que la NFL cette année, c'est sur 6 Play tous les dimanches 19h, une affiche NFL en direct gratuitement. Lucas, ce sera encore pour toi cette semaine avec un Dolphins Giants. Abonné aux Dolphins, deuxième semaine de suite.
Oui, abonné à la FCS même. J'ai fait 3 matchs, 3 fois il y avait de la FCS.
C'est vrai.
Pour qu'ils me connaissent du côté
ouais,
de la FCS.
C'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, mais t'as l'équipe qui, j'allais dire, qui marque des points un peu moins cette semaine, mais bon. Ouais, en tout cas, Dolphins Giants, donc 19h. Ce dimanche, nous, on va débriefer ce qui s'est passé dans la semaine écoulée et c'est tout de suite.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence une fois n'est pas coutume avec les Houston Texans qui affrontaient les Pittsburgh Steelers 30-6 pour Houston. Messieurs, je pensais pas qu'on ouvrirait avec les Texans en début de saison. CJ Stroud continue de briller, les Texans continuent de surprendre. On leur promettait quand même une année difficile. Finalement, ça marche plutôt honnêtement. 2 victoires, 2 défaites après cette victoire. CJ Stroud, 16-30, 306 yards, 2 touchdowns. Il a 2 matchs à plus de 300 yards, ce qui fait un de plus que Justin Fields. On y reviendra plus tard aux Bears, évidemment. C'était un tackle gratuit. Messieurs, ça ressemble à un franchise quarterback, ce petit CJ Stroud. Lucas, je te vois hocher la tête.
Oui, clairement. Clairement, ça ressemble vraiment à un franchise quarterback. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il fait. En plus, ce week-end, de nouveau, il manquait pas mal de joueurs sur la ligne offensive, un petit peu comme la semaine passée. Et pourtant, il arrive toujours à être aussi bon. Il est bon dans la poche. Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire que c'est vrai que le football universitaire, pas que je m'y intéresse pas, mais j'ai pas trop l'occasion de le regarder. Et du coup, ces joueurs-là, quand ils arrivent, même si on voit beaucoup de vidéos avant, c'est plus ou moins la première fois qu'on les voit à très haut niveau dans des matchs entiers, pour ma part en tout cas. Et c'est vrai que il est très impressionnant. Il a des prises de décision qui sont très bonnes. Il a aucune interception depuis le début de la saison, je crois. Je crois qu'il ne s'est pas fait saquer non plus sur ce week-end et le week-end précédent non plus. Donc c'est vrai que tous les voyants sont au vert pour lui. Après seulement 4 matchs en NFL, c'est vrai que les personnes qui l'ont choisi et DeMeco Ryans doivent être très contents.
Il apprend vite parce que tu l'as dit, il prend 5 sacs dans le premier match, 6 dans le second et 0-0 sur les suivants. Alors ça, j'allais dire c'est un peu moins féroce, mais non, quand même, il y a TJ Watt en face sur ce match-là, mine de rien. Et celui d'avant, c'était les Jaguars avec Josh Allen et Trayvon Walker. Il apprend très très vite. Je suis comme toi, je suis impressionné par la prise de décision, le calme. J'ai l'impression qu'il y a des rookies où on voit tout de suite, tu le disais, moi je suis comme toi, hein, je vais pas faire croire que je regarde tous les matchs NCAA, surtout que maintenant on a une team draft très 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 étoffée, donc je prépare un peu moins la draft qu'il y a quelques années, hein, maintenant qu'ils gèrent tout, donc c'est vrai que je découvre un peu plus aussi, et il y a des joueurs comme ça où tu les vois, et tout de suite ils ont l'air de quarterback NFL compétent, on se dit pas, tiens, ah oui, il va falloir qu'il progresse, c'est un projet, etc. Bon, là, il a l'air d'un joueur très compétent. Et ouais, c'est impressionnant parce qu'il fait briller Nico Collins, qui est aussi un rookie qui claque 168 yards et 2 touchdowns quand même, mine de rien. Tu le disais, il n'y a pas la Remy Tunsil sur ce match non plus. Donc, il y a vraiment des bonnes prises de décision, un bon placement du ballon, c'est précis. Raphaël, en plus, il y a un coaching vraiment... Enfin, tout semble cohérent autour de lui.
Ouais, tout semble cohérent au-delà des qualités personnelles que vous lui avez attribuées à juste titre. Je pense qu'effectivement, faut pas négliger la part et la responsabilité aussi là-dedans dans cette réussite pour le moment du coordinateur offensif, Bobby Slowik, qui était un ancien des 49ers, école Shanahan, hein, et qui clairement, pour le moment, arrive à parfaitement être en symbiose, j'ai envie de dire, avec son quarterback rookie. Il lui donne beaucoup d'opportunités de lancer. Il n'a pas peur de le mettre au cœur du jeu. Des lancers très différents, courts, en profondeur. Il ajuste le plan de jeu suivant le pass rush adverse. Enfin, là, on a vu contre les Texans, malgré les blessures, ils l'ont fait aussi beaucoup lancer de manière assez rapide pour éviter aussi qu'il prenne la pression. Et tout ça, c'est pas un hasard. Si on regarde une des statistiques avancées préférées de certains, que Clément, un de nos collègues, avait eu l'occasion de vous présenter dans des fauteuils sur le site, les EPA, donc cette stat qui mesure en théorie la qualité de l'attaque aérienne, notamment là pour le coup. Les Texans l'an dernier étaient derniers de la Ligue dans le jeu de passe. Cette année, ils sont 12e, si on regarde les EPA. Et forcément, quand tu gagnes en qualité comme ça dans le jeu de passe, je ne suis pas étonné que tu arrives à en gagner quelques victoires de plus que l'an dernier. Et ça met forcément l'équipe sur des bonnes rails. Donc, et voilà, comme vous l'avez dit, Strode est responsable de ça, mais il y a le coaching staff qui fait tout pour bien l'épauler. Donc, c'est vraiment une très, très belle dynamique du côté des Texans.
C'est vrai qu'il lance beaucoup. 40, il a lancé au moins 30 passes par match. C'est son minimum. Il y a 139 yards au sol sur ce match-là. Hein. Faut pas oublier quand même qu'ils font plus de courses que de passes. Il y a 38 courses pour 31 passes. Alors, le scénario du match fait aussi, hein, puisqu'ils ont dominé. Donc, il y a un moment où il n'y avait pas forcément besoin de lancer. Dameon Pierce remonte petit à petit en puissance. C'était quand même une des sensations de l'année dernière. Dameon Pierce discret pour l'instant. Mais là, qui revient avec 81 yards en 24 courses. Lucas, je reviens là-dessus quand même. C'est vrai qu'on parlait de DeMeco Ryans, du coordinateur, etc. En défense aussi, ça a quand même été solide parce que mine de rien, on va y venir. Les styles sont en difficulté, mais faut quand même maintenir une équipe NFL à 6 points en face. Ça ressemble à une franchise globalement qui devient cohérente, les Texans là.
Oui, et déjà quand on a dit ça à propos de Houston, on a dit beaucoup parce que on sait que vraiment la cohérence c'est quelque chose qui manquait du côté de cette franchise. Je crois que ça faisait 2 saisons qu'ils avaient un coach pour une saison, qu'ils ont viré à la fin de la saison, et ça n'arrive pas si souvent que ça en NFL sur une saison. Donc en effet, il y a beaucoup de choses. Tu as parlé du jeu au sol qui est de mieux en mieux. C'était la question qu'on se posait la semaine passée. On a l'impression qu'ils y ont un petit peu répondu. Il y a beaucoup de receveurs différents aussi. Tu as parlé de Nico Collins. Tu voulais parler aussi du rookie Tank Dell tout à l'heure. Donc, je crois qu'il lance à 7 receveurs différents. Et puis, il y a cette défense aussi qui est de mieux en mieux. Alors, pour ce point-là, je mesurais un petit peu parce que et c'est peut-être la transition qui va nous permettre de parler des Steelers. Mais c'était en face très médiocre, j'ai envie de dire, même si en effet réduire une attaque à 6 points, c'est pas anodin à NFL, mais c'est vrai que cette défense là en tout cas, elle permet voilà d'avoir la chance à CJ Stroud de gagner les matchs et il le fait bien.
Je reviens sur le scénario du match. Les Texans, pardon, menaient 16-0 à la pause. Les Steelers ont mis deux field goals pour revenir à 16-6. Et puis finalement, Dalton Schultz et Nico Collins ont marqué. Collins qui n'est pas rookie. En effet, j'ai dit une bêtise. Il a été drafté en 2021. C'est Tank Dell, le rookie. Stroud est à 6 touchdowns et aucune interception en 3 matchs. On est potentiellement sur une des meilleures saisons de l'histoire pour un quarterback rookie. Alors évidemment, c'est après 4 matchs. Hein, donc, on va se calmer tout de suite. Mais, juste pour finir sur lui, on a des éléments pour que ça dure. Je vais résumer là-dessus. Est-ce que Houston a trouvé son quarterback, Raphaël, celui qu'il cherchait depuis le départ de Deshaun Watson?
A priori, oui. Alors, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une chute, d'une catastrophe industrielle de dernière minute qui arrive de je ne sais où. T'es jamais à l'abri de ce genre de truc et d'une blessure, blabla. Mais sur le papier, il semble avoir toutes les qualités qu'il faut à un quarterback pour être un franchise quarterback. Donc, maintenant, faut confirmer, mais sur ce qu'il a montré, oui.
Tu as prononcé les mots accident industriel, donc je pense que ça me fait une bonne transition pour passer à Pittsburgh. Seulement 225 yards exactement en attaque pour Pittsburgh. Kenny Pickett touché au genou. Alors juste avant cet enregistrement, on a appris qu'il allait s'entraîner cette semaine et que a priori c'était pas trop grave. Il pourrait, s'il revient pas cette semaine, ce sera celle d'après quoi. A priori, donc voilà. Kenny Pickett, donc il termine avec 114 yards, aucun touchdown, une interception, la petite blessure, et surtout on a vraiment l'impression d'avoir une attaque qui plafonne complètement, Lucas. C'est un peu dur comme question, j'allais dire de qui c'est la faute, on va pointer des doigts, mais c'est Kenny Pickett qui plafonne, c'est Matt Canada, le coordinateur offensif, qui trouve pas de solution.
Alors, je pense que je vais faire une réponse un peu facile, c'est un peu tout ça. Kenny Pickett, on l'a dit, je pense qu'il est encore très limité, et je dis encore parce qu'il est jeune et que peut-être il pourra évoluer sous un nouveau coordinateur offensif ou avec un peu plus de monde autour de lui, mais il reste limité pour l'instant. Mais au-delà de ça, même limité comme il est, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire mieux, et en tout cas c'est vrai que le coordinateur offensif, il n'est pas aidé du tout par son coordinateur offensif qui est toujours là. On se posait la question déjà avant, alors on n'a pas toujours tout bon quand on fait des prédictions, mais on se posait la question pourquoi il était encore là, et au bout de 4 matchs, la question elle se pose plus que jamais, et il va, à mon avis, pas faire long feu parce que je vois pas comment ça peut s'améliorer, et c'est le piston facile, surtout que Mike Tomlin n'est pas particulièrement en danger. Donc il va y avoir un nouveau coordinateur offensif en milieu de saison, ce qui ne va pas non plus aider, ce qui ne va pas avoir des changements directs. Donc c'est vrai que la situation là, on voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir, d'autant que il manque énormément de talent aussi dans cette attaque. George Pickens, ok, même si on n'a pas non plus encore vu tout ce qu'il pouvait faire, mais apparemment c'était encore un phénomène un joueur très bon en sortie d'université. Donc on va attendre. Najee Harris, pas aidé par sa ligne offensive, mais il est très bon. Mais derrière, c'est un peu le désert pour moi, et c'est ça qui est le plus inquiétant.
Oui, il y a la blessure de Jonta Johnson aussi qui aide pas, mais c'est pas non plus c'est pas Randy Moss non plus quoi. Donc Raphaël, Matt Canada, le fusible facile, c'est dans les tuyaux.
Fusible facile, mais justifié pour moi. Oui. J'entends que c'est un peu des deux, et que bien sûr, t'as toujours les joueurs à l'exécution et qu'ils ont mécaniquement de ce fait-là leur part de responsabilité. Mais maintenant, quand tu regardes les stats des Steelers en attaque depuis 2021, rien que cette saison, c'est juste pas possible, peu importe la catégorie que tu prends. Enfin, là, j'avais une stat, j'ai halluciné, t'as 58% de leur possession offensive en première mi-temps depuis le début de la saison, 58% qui finissent par des third and out. Donc trois actions et je sors quand la moyenne de la ligue c'est 34%. Donc je veux bien que c'est pas l'effectif le plus talentueux, mais en plus je crois pas que ce soit le moins talentueux de la ligue. Et quand t'es dans des telles proportions de nullité, 10%, enfin 67% des drives qui finissent par des punts ou des turnovers, enfin je veux dire quand t'atteins ce genre de proportions, c'est pas que les joueurs, il y a une question de schéma, c'est pas possible de pas trouver les, enfin, pour moi, tu peux pas être dans des proportions aussi mauvaises sans remettre en cause le coaching staff. Donc, oui, Matt Canada fusible, mais fusible mérité.
Surtout que je poursuis, Raph, mais c'est pour moi symptomatique la statistique que tu viens de donner. On le sait que généralement les premiers drives sont très scriptés, sont très très préparés parce que on a le temps de préparer l'équipe et ensuite on s'adapte un petit peu aux joueurs, à la situation du match, au scénario et aux défenses qui peuvent être mises en place. Mais on sait que les premiers drives sont souvent très scriptés. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est très, à minima très mal scripté par le coaching staff, voilà, voire pas du tout. Donc c'est vrai que pour moi cette statistique là, elle est très juste et très symptomatique.
On continue cette semaine des équipes surprenantes avec... bah non, d'ailleurs, j'en ai sauté un. Hein, j'allais partir sur Colts-Rams. J'ai spoilé, ça c'est le troisième. Le deuxième, c'est Cowboys-Patriots, 38-3 pour les Cowboys. Un fumble, deux interceptions et le banc pour Mac Jones. Les Patriots qui se sont fait massacrer par la défense des Cowboys. C'est la plus large défaite de toute la carrière de Bill Belichick, y compris avec sa période Browns. Est-ce qu'il y a une polémique au poste de quarterback à New England? Allez, je vais rentrer sur ce dossier-là tout de suite. Bailey Zappi a rentré en cours de match, mais parce que c'était paumé de chez paumé. Lucas, on va commencer avec toi, tu es l'expert du dossier Patriots. Est-ce qu'il y a une polémique?
J'ai envie de te dire non, parce que Bill Belichick, vous l'avez peut-être vu sur le site ou entendu, mais a dit que Mac Jones serait titulaire dès la semaine prochaine, je crois qu'il joue contre les Saints. Donc j'ai envie de dire là, la polémique, est non, cette semaine non, mais j'ai bien peur qu'on réédite un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, ça va retourner. Mac Jones, c'est un petit peu la même chose que Kenny Pickett à un niveau différent, mais il est dans une situation pas évidente parce qu'il y a manque de talent autour de lui. Et on le voit aussi qu'il est en difficulté dans certaines de ses prises de décision, dans le calme qu'il pourrait avoir et qu'il n'a pas. Et donc, du coup, j'ai peur que la polémique revienne. Et un petit peu comme l'année dernière, je ne suis pas sûr que Bailey Zappi soit non plus la solution, et donc on va alterner. En tout cas, je pense que Bill Belichick, il le sait, il sait que Bailey Zappi est pas beaucoup mieux, et donc du coup il laisse Mac Jones parce que il a pas mieux, mais c'est pas clinquant.
Raphaël?
Moi, j'ai envie de dire non, parce que je crois pas que là où en sont les Patriots aujourd'hui, ce soit particulièrement de la faute numéro un de Mac Jones. Donc je crois pas que le problème global des Patriots là cette saison, ce soit je mets Bailey Zappi à la place de Mac Jones et ma saison est relancée. Je n'y crois pas une seule seconde.
Le fait est qu'il a l'air de régresser quand même.
Oui, mais il régresse, il sort son plus mauvais match sur ses trois premiers matchs. Moi, je trouvais pas qu'il était en régression, tu vois. Je trouvais même ça presque meilleur que l'an dernier, parce que l'an dernier, on lui avait aussi mis Matt Patricia et Joe Judge en coordinateur offensif. Enfin, désolé, mais Bill Belichick a quand même bien savonné la planche à son quarterback rookie entre 2021 et 2023. Donc,
C'est vrai. Bon, là, on va mettre.
Je crois que Bill Belichick sera un sujet peut-être dans un autre podcast un de ces jours. Donc, on va se regarder.
Pour Mac Jones, c'est vrai qu'on va mettre ça aussi sur le compte d'un mauvais match. Tu le disais, c'était plus solide en début de saison. Mais c'est vrai que c'était dur. Là, les deux interceptions, il est même pas vraiment sous pression.
Fumble aussi.
Ils sont catastrophiques, les interceptions, il y a zéro doute.
Mais paradoxalement, le début de match est pas si dégueulasse que ça, permettez-moi l'expression. Ils perdent le ballon sur une quatrième tentative qu'ils tentent. Là, il manque d'expérience, je pense, Mac Jones, et peut-être un peu de puissance, ou de mobilité. Mais au-delà de ça, le début de match est pas si catastrophique que ça. Il y a le fumble qui finit en touchdown. Et après, là, par contre, ça devient catastrophique. On le sent, prise de décision compliquée. Donc,
alors,
c'est peut-être pour ça qu'on le garde.
Alors, si on parle pas de Mac Jones, c'est vrai qu'il faut se tourner vers le reste de l'effectif. Est-ce que au final, il y a eu un débat dans la rédaction, on vous le dit, savoir si ce match méritait d'être traité si haut, si même on ouvrait là-dessus, est-ce qu'il y a un vrai sujet sur les Patriots en difficulté? Est-ce que le sujet, en effet, peut-être qu'il n'y en a pas, que c'est juste les Patriots ont l'effectif qu'ils ont, c'est-à-dire un effectif qui est quand même assez pauvre, il n'y a aucun joueur capable de faire la différence en attaque, il n'y a pas de playmaker. Et sur ce match, il y a Matthew Judon et Christian Gonzalez qui sont peut-être leurs deux meilleurs joueurs défensifs depuis le début de la saison qui sont blessés. Donc en fait, c'est peut-être un des pires effectifs aussi de l'ère Belichick, Raphaël.
Ah, oui, je pense que c'est effectivement l'un des pires effectifs de l'ère Belichick. Encore plus offensivement. Je pense que là, le fossé offensif n'a jamais été aussi grand que maintenant. Parce que, par exemple, en arme offensive, alors, Jacoby Myers n'était peut-être pas un grand numéro 1, mais enfin, sur les trois dernières saisons, c'est le meilleur receveur des Patriots. Ils le font partir pour le remplacer par qui? Aucune idée. Enfin,
Juju Smith-Schuster.
Ouais, qui était déjà pas bon et qui était déjà pas capable d'être un numéro 1 chez les Steelers. Donc, il y a un moment, on peut en retourner le truc dans tous les sens. L'effectif est mal construit. Il est, à mon avis, pas adapté au 21e siècle. En tout cas, à l'année 2023. Et en tout cas, cette saison, ils vont le payer parce que je vois pas comment structurellement et en interne, ils peuvent remonter la pente. Sur cette saison-là, sincèrement, moi, j'ai pas envie de dire que c'est déjà mort parce que, voilà, mais
une victoire, trois défaites dans la FCS de cette année,
ouais,
ça me paraît compliqué.
Ouais, si, c'est déjà
même.
Mort, mais...
mais c'est mort pour les playoffs, mais le problème avec les Patriots, j'ai envie de dire, c'est que, par exemple, peut-être qu'ils vont gagner ce week-end contre les Saints, parce que les Patriots vont aller chercher des matchs. En fait, ils perdent contre des équipes de haut niveau, parce qu'ils ne le sont plus au haut niveau,
oui,
clairement. mais parce qu'ils vont perdre contre les Dolphins, ils vont perdre contre les Eagles, ils vont perdre contre les Cowboys, des équipes qui voilà qui sont favoris et qui jouent les playoffs, ils perdront contre les Bills très probablement. Et après ils vont peut-être aller accrocher des matchs parce que la défense reste solide, même si là en effet l'absence des deux joueurs majeurs que tu as cité Alain va être importante parce que c'est clairement probablement les deux meilleurs. Mais la défense reste solide.
Je l'ai pas dit, Judon, c'est probablement saison terminée. En tout cas, une opération du biceps.
Donc voilà, ils vont aller chercher ces matchs-là, mais bon. Après, bon, juste une petite remarque quand même, le 21e siècle, il est vieux, Bill Belichick, mais au 21e siècle, il a quand même eu quelques succès.
Je sais, c'est 21e siècle était un abus de langage, mais, non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que,
bien sûr.
Si je peux me permettre, désolé de faire un tout petit peu long, mais si tu compares là sur les 4 premières semaines, qui les Patriots ont affronté en termes de receveurs. En semaine 1, ils affrontent les Eagles avec AJ Brown et Devonta Smith. En semaine 2, ils affrontent les Dolphins avec Tyreek Hill, Waddle. Semaine 3, Garrett Wilson. Semaine 4, CeeDee Lamb. Côté Patriots, c'est qui l'équivalent de ça? Et en 2023, tu peux pas arriver en NFL avec pas de receveur numéro 1. Enfin, je veux dire, on peut tourner ça dans tous les sens. C'est pas possible, en fait.
Mais on y reviendra peut-être un petit peu à la chute des Patriots et à l'éventuelle chute de Bill Belichick plus tard dans la saison. Ça fait un petit teasing pour une émission qui aura peut-être lieu dans 2, 3 ou 4 semaines. On sait même pas encore, hein, mais on se la garde sous le coude. Ça pourra arriver. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ce match pour les Cowboys? On n'a pas encore parlé d'eux, mais ce qui est pas étonnant parce que on disait les Patriots ont perdu ce match logiquement. Les Cowboys ont visiblement gagné logiquement aussi. Ils ont déroulé 124 yards au sol. Dak Prescott est pas vraiment inquiété. Est-ce qu'il y a une leçon dans ce match, Raphaël, pour les Cowboys?
Écoute, pas énormément. Effectivement, la meilleure équipe s'est imposée. Ils devaient s'imposer. Ils l'ont fait de manière assez facile. En faisant étalage un peu de toute leur qualité jusque-là, donc pas vraiment de leçons.
Moi, une petite chose quand même, leur problème dans la zone rouge, ils sont à 7 sur 19 depuis le début de la saison. Alors, ça leur porte pas préjudice, pardon, je vais y arriver, il y a un peu trop de paix dans cette phrase, parce qu'ils affrontent une attaque qui n'est pas capable d'avancer, mais ils ont parfois dû s'arrêter pour des field goals au lieu de touchdown, et peut-être que, parce que ça devient récurrent pour les Cowboys, et peut-être que quand la montagne va s'élever, comme on dit dans le cyclisme, ça sera un peu compliqué. Donc, il faudrait régler ce genre de problème.
La route est droite, mais la pente est forte, disait Jean-Pierre Raffarin. Je crois que c'était ça, une de ses superbes expressions. Je suis marqué par ça. Colts 23, Rams 29, dans le genre des scénarios dingues. Les Rams menaient 23-0, les Colts sont revenus à 23 partout. Finalement, victoire des Rams qui ont marqué sur la première possession de la prolongation par Puka Nacua. Alors, grosse pensée pour Raphaël, hein, qui aime les jeux de mots. Je ne sais pas si tu as entendu le commentateur américain qui a osé quand même un Nacua Matata au moment où le mec a marqué. Alors, je t'avoue que même moi, celui-là, j'avais un peu d'anxiété qui a monté quand même, là, quand il fallait l'oser, hein. Donc, les Rams se sont fait très peur, mais ils ont gagné quand même, grâce notamment à Anthony Richardson. Ils ont eu peur parce que Anthony Richardson, alors les stats sont étranges, on va dire. Il a 11 sur 25, 200 yards de touchdown. Il est aussi très actif au sol, 10 courses pour 56 yards et un touchdown. Alors, c'est pas CJ Stroud, hein, mais si on est sur le sujet des débutants, lui, il a montré des flashs, c'est-à-dire qu'il montre qu'il a des armes par moment. C'est pas hyper régulier, c'est pas hyper académique même, mais il a des armes, Raphaël.
Ouais, c'est ça. Alors la comparaison paraît un peu facile, évidente, mais je trouve qu'il donne un peu l'impression d'un Cam Newton de pas 2.0, parce que ça voudrait dire amélioration, mais d'un nouveau Cam Newton, dans le sens où Cam Newton aussi, sa saison rookie, tout n'était pas parfait à la passe, mais tu voyais qu'il y avait des flashs par moment, qu'il était quand même capable de lancer des belles balles. Bien placé.
Il passait plus quand même.
Il passait un peu plus, mais je trouve que sur certains matchs, Richardson réussit aussi des belles passes. Enfin, là, t'en as 2-3 dans ce match sur les drives de remontée où franchement, c'est plutôt séduisant. Pour le moment, il n'y a pas encore la régularité et la consistance, effectivement. Mais en tout cas, il a déjà ce qu'il faut en termes de dynamisme, de leadership dans l'équipe. Et encore une fois, tous les quarterbacks routines ne dégagent pas cette impression de leadership. Donc, je sais pas s'il sera aussi bon que certains l'espèrent, ou en tout cas que les Colts l'espèrent, mais c'est quand même pas déshonorant ce début de saison de Richardson, quoi.
Déjà, il est un peu plus fun que le club de l'EHPAD des quarterbacks qu'ils ont fait défiler depuis 5 ans ou je sais pas combien.
Ah bah oui, c'est clair, tu t'amuses un peu plus. Ouais,
c'est un petit peu le Cam Newton du 21e siècle, Raph, c'est ça que tu veux dire.
Non mais alors, sans être sur Cam Newton, mais c'est vrai que c'est un tank dans l'improvisation, il est fun. En plus, il a quand même un groupe de receveurs qui est assez... un des pires de la ligue, hein. On va pas rentrer dans le débat sur les Colts, mais Lucas, on dirait quand même que on parlait de Stroud par exemple, Richardson, il a l'air d'avoir une marge de progression qui est dingue, quoi.
Oui, parce que je le disais, je regarde pas particulièrement l'universitaire, mais je les écoute, nos amis de la draft, et c'est un petit peu ce qu'ils disaient quand même quand il est arrivé, c'est-à-dire que c'était peut-être pas le quarterback le plus NFL ready, comme on dit, le plus prêt pour la NFL, mais c'est celui qui avait le plafond le plus haut, et c'est vrai que ça se voit, parce que tu parlais de ces statistiques, elles sont un peu particulières, la première mi-temps est un peu compliquée, la deuxième est beaucoup mieux, et on le voit qu'il est pas encore assez mature pour être bon sur tout un match, mais c'est vrai que on voit que quand il est bon, il peut être très bon. Va falloir maintenant le développer pour qu'il le soit sur un match, sur une saison et sur plusieurs saisons parce que c'est un franchise quarterback. Mais c'est vrai que les petits indices qu'on voit et qui sont parfois de plus en plus grands sur un drive, sur une mi-temps, ils peuvent donner beaucoup d'espoir aux supporters et aux Colts.
En face, les Rams sont à 2 victoires, 2 défaites. Matthew Stafford serait-il finalement bien entouré? Il y a 164 yards au sol, dont 103 et 2 touchdowns pour Kyren Williams. Pukanakua est encore à 163 yards avec 9 réceptions et 1 touchdown. C'est plutôt pas mal. Alors Stafford, il finit un petit peu sur une hanche, il titube un peu, ce qui est rarement rassurant à ce stade-là. Mais mine de rien, Lucas, ça joue quand même encore très très bien. C'est bien coaché. Finalement, ils sont là, les Rams.
Oui, il est bien entouré en effet. Il y a pas mal de rookies qui sont arrivés, de joueurs, et il est bien coaché aussi. Mais je le trouve très bon, aussi particulièrement bon depuis le début de la saison. Il a des lancers qu'on peut voir, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de quarterbacks qui sont capables de faire certains des lancers qu'il fait, notamment dans ce match-là. Alors il y a cette interception qui fait un peu tâche, et il y a cette blessure après qui le complique un peu. Mais quand il est en forme physique, ce qu'il a l'air d'être depuis le début de la saison, il rend ses joueurs et ses coéquipiers meilleurs, son attaque meilleure. Donc je pense que c'est vrai que avant que peut-être son physique le lâche cette saison, parce que malheureusement on sait que c'est pas toujours évident, il faudrait lui rendre hommage aussi parce que je le trouve très bon depuis le début de la saison.
C'est terrible quand tu dis avant que le physique le lâche peut-être. Je regardais, il a 35 ans. C'est dire la folie de la carrière de Brady, parce que de se dire qu'à ce moment-là Brady lui disait moi il me reste 10 ans.
Et quelques Super Bowls à gagner.
Et quelques Super Bowls. Raphaël, on a retrouvé un bon Matthew Stafford, c'est vrai.
Oui. Il est globalement précis la plupart du temps, avec des bonnes prises de décision. Il y a toujours 2-3 fois un petit coup de déchet, mais ça a toujours été ça, Matthew Stafford. Donc, de toute manière, enfin, voilà, il n'y a pas de raison que ça change. C'est un quarterback rassurant sur son état de santé. On avait eu quand même des craintes cette intersaison, un peu l'épaule. Il avait vraiment fini l'an dernier de manière compliquée, blessé de toute manière. Voilà, donc oui. Mais effectivement, en fait, ce qui est un peu surprenant, c'est le casting autour de lui qu'on n'attendait absolument pas. Vous avez parlé de Williams et de Nakua. Enfin, je lisais Nakua, j'ai été vérifié parce que j'arrivais pas à croire l'info. Là, il est déjà 39 réceptions en 4 matchs en NFL. Sa dernière saison en collège université, c'était 48 réceptions et la saison d'avant, 43 réceptions. Enfin, le mec, il sort quand même, c'est à ce niveau-là, c'est déjà le vol de le style de la draft, comme on dit, quoi. Enfin, c'est...
Mais il draft pas mal, hein, parce que même en défense, c'est vrai qu'on parle peu des défenses, mais Ernest Jones, qui est leur meilleur plaqueur sur ce match et qui a un sac, c'est un 103e choix de la draft. Ils sont quand même minorés. On rigole souvent des Rams et des choix de draft, etc. Mais ceux qu'ils ont, ils les utilisent quand même pas mal, parce que les Cooper Kupp, les Nakua, les Jones, c'est des mecs qui draftent, mine de rien. Donc, des fois, il vaut peut-être mieux avoir 5 choix de draft et taper juste sur les 5 qu'en avoir 10 et faire n'importe quoi avec. Donc, c'est quand même plutôt pas mal du côté des Rams. 2 victoires, 2 défaites, tout comme les Colts, hein, quand même, ce qui reste aussi inattendu, et Anthony Richardson qui confirme quand même que c'est un joueur à regarder. On passe aux Chargers 24, Raiders 17, un drôle de match aussi. Les Chargers menaient 24-7 à la pause, puis plus rien. Les Raiders sont revenus dans le match, ils ont même eu le ballon pour aller égaliser à 3 minutes 30 de la fin, mais Aidan O'Connell a été intercepté. On rappelle que Jimmy Garoppolo ne jouait pas. Les Chargers s'en sortent, mais qu'est-ce qui s'est passé après la pause pour cette attaque, Lucas?
Je sais pas, c'est toujours les Chargers, ils sont toujours insaisissable.
Oui, ils se sont dit on est trop large.
Oui, c'est pas dans l'ADN. Ça, on va être obligé de gagner un match avec plus d'une possession d'écart. Faudrait pas que ça arrive trop souvent, donc on va laisser un peu revenir. Non, je sais pas honnêtement ce qui s'est passé. Brandon Staley a encore eu une décision, 4e tentative, qui a failli coûter le match à son équipe en fin de match, un peu comme la semaine passée. Ça fait 2 fois qu'il s'en sort. Alors oui, les chiffres et les statistiques disent qu'il faut qu'il attende cette 4e tentative comme la semaine passée, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait tout pour vraiment prouver son point. Donc, je sais pas ce qui s'est passé sur cette attaque-là. L'avantage, c'est que, à l'inverse des deux premiers matchs, ils gagnent ce match-là et ils s'en sortent, même si c'est pas très beau. En NFL, on prend les victoires et on essaye de progresser.
Raphaël, est-ce que l'important finalement c'est pas la défense? On a vu la défense prendre un peu vie. Bon, c'était pas une équipe de folie en face, hein. Mais
non, bon. Non, mais c'est vrai que c'est le deuxième match de suite où finalement la défense fait l'action décisive qu'il faut en fin de match pour remporter le match. Ça a été le cas la semaine dernière contre les Vikings, c'est à nouveau le cas cette semaine avec cette nouvelle interception. T'as un Khalil Mack qui est enfin ressorti de sa boîte. Alors, je pense qu'il ne va pas ressortir de sa boîte à cette hauteur-là avec 6 sacs par match, ou alors c'est vraiment là, c'est stratosphérique. Mais oui, c'est peut-être malgré tout le bon point dans un match où l'attaque a baissé de rythme, peut-être lié à la petite blessure main gauche de Justin Herbert quand même, et la difficulté à installer le jeu au sol depuis la blessure d'éclair. Donc bon, c'est bon à prendre. Mine de rien, ça leur permet de revenir à 2-2. Est-ce que c'est convaincant pour la fin de saison? Je ne suis pas persuadé, mais au moins, ça, tu te remets dans les rails, quoi.
Khalil Mack, 6 sacs, c'est un incroyable retour au premier plan, parce qu'il n'avait pas réussi une saison à 10 sacs depuis 2018. Donc là, bon, il a déjà fait la moitié du chemin. Le record, vous savez, c'est combien de sacs sur un seul match?
7.
Ouais, c'est 7, ouais. Bon, voilà. Il était à une unité près de l'égaler. C'est Derrick Thomas, si je ne dis pas de bêtises, qui a le record. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant chez Aidan O'Connell qui pourrait éventuellement inquiéter Jimmy Garoppolo? 24 sur 39, 238 yards, une interception. Je ne sens pas vraiment panique.
Particulièrement emballé. La dernière interception fait beaucoup de mal. Elle est sale, comme on dit. Pas aidé par son jeu au sol non plus. Surtout face aux Chargers qui, on le sait, généralement laissent un peu de place au sol. Là, encore une fois, avec un quarterback rookie, on aurait pu imaginer que le jeu au sol soit déployé. Je crois qu'ils sont à 76 yards. Donc, non, pas rassuré pour Las Vegas.
Raphaël, Josh McDaniels, d'émission, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Sean tout le temps.
Non, mais bon, c'était pas si catastrophique, j'ai trouvé, pour un match de rookie. Il perd beaucoup de ballons, mais il est lancé comme ça. Compliqué avec une ligne offensive qui l'a vraiment pas aidé, même si lui-même ne s'est pas toujours aidé en gardant trop la balle. Donc effectivement, je reprocherais peut-être à McDaniels de ne pas avoir assez insisté avec le sol et peut-être pas, et des fois avoir tenté de trop étirer le jeu à la passe plutôt que de lui faire beaucoup de passes courtes. Bon, voilà, mais après, il menacera pas Jimmy Garoppolo cette saison, en tout cas.
On passe donc à la FC Nord. Browns 3, Ravens 28. Sans Deshaun Watson, les Browns n'ont pas existé. Tout le contraire de Lamar Jackson. Plutôt souverain sur cette rencontre. 15 sur 19, 186 yards, 2 touchdowns. Aussi 9 courses, 27 yards et 2 touchdowns. Donc ça fait 4 au total. Il a bien pris le dessus sur une défense qui était pourtant solide depuis le début de la saison. Quand il est efficace comme ça, là on était sur du Lamar Jackson quand même. Ultra efficace, affûté, Lucas.
Alors quand il joue comme ça, c'est très fort. C'est très, très fort, Lamar Jackson. On se rappelle de sa saison rookie. Sa saison MVP, pardon. Mais quand il joue comme ça, c'est vrai qu'il est dur à défendre. En plus, on le disait, c'est une défense qui avait prouvé tout de même depuis le début de la saison. En tout cas, qui avait été performante contre d'autres attaques. Et là, là, il est très bon. En plus, il retrouve une connexion avec Mark Andrews qu'il n'avait pas forcément depuis le début de la saison. Je crois que les deux touchdowns à la passe, ils sont pour son tight end. Donc c'est vrai que là ça a remis quelques voyants au vert après un petit peu, allez, on va dire une erreur de parcours la semaine passée face aux Colts, mais c'est très bon signe. Ouais,
ouais, je suis d'accord, c'est plutôt bon signe. Comme tu dis, il y a eu la petite erreur face aux Colts, mais le match d'avant, les Colts avaient été plutôt convaincants offensivement, on avait vu de belles choses. C'est à nouveau le cas cette semaine. Ils ont quand même explosé une défense de Cleveland qui jusque là était très bonne. Ils n'avaient encaissé qu'un seul touchdown, n'avait pas encaissé plus de 75 yards au sol. Ils ont explosé les Browns dans ces deux catégories. Quand cette attaque de Baltimore arrive à jouer simplement, développer un jeu de passe et arrive à courir, ils sont presque encore plus là dans la situation contextuelle. Ils redeviennent favoris de la FC Nord. Enfin, je veux dire, quand ils sont comme ça, tu vois pas très bien comment les bloquer. Malheureusement, ce qui leur manque encore, c'est le fait de refaire ça tous les matchs, quoi.
Ouais, ils étaient vraiment dans la config idéale, quoi. T'as 33 courses, 19 passes, ça court bien, ça passe bien. Marc Andrews est de retour. Donc, meilleure équipe de la FC Nord, en effet, Raphaël, dans ce cas-là. Ce qui n'était pas du tout le cas des Browns. Depuis qu'ils ont été annoncés meilleure équipe de la FC Nord par un certain membre de l'équipe dans l'émission preview, ça pioche un peu. Dorian Robinson, Thompson Robinson, dans l'autre sens, remplaçait DeSean Watson pour ce match. Watson était touché à l'épaule, on le rappelle. Ça n'a pas été très très bon. Je tiens juste à rappeler que Kenny Pickett, là, on a parlé de la blessure, et Dorian Thompson-Robinson, c'était quand même les deux sensations de la pré-saison. Hein, on rappelle donc à quel point les matchs de pré-saison ne veulent rien dire. Maintenant, vous êtes fixés parce que là, ça a donné 19 sur 36, 121 yards, aucun touchdown, 3 interceptions. Bon, voilà, là, la ligne n'était pas là, donc il n'était pas aidé non plus. Il prend 4 sacs, le jeu au sol est ralenti. C'est une preuve de l'importance de DeSean Watson, du coup ? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il était exceptionnel depuis, depuis un an et demi. Enfin, depuis un an.
On a vu que la semaine passée, sans Chubb, c'est Watson qui avait porté cette attaque. Et on a vu que ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Et on a vu que le rookie, que je vais appeler DTR pour pas faire de pour pas m'embrouiller, n'était pas au niveau, tout simplement. Alors, l'importance de DeSean Watson, oui, je pense. La semaine de repos, d'ailleurs, va faire du bien la semaine prochaine pour permettre au quarterback d'essayer de revenir en forme physique.
Raphaël, c'est match 100, parce que même la défense passe un peu au travers, alors qu'eux aussi, ils étaient très bons finalement depuis le début de l'année.
Ouais. Alors, match 100, malheureusement, je suis pas certain dans tous les sens. Match 100 en attaque, oui, parce que tu as un contexte qui fait que tu avais peu d'espoir de faire grand-chose. Hein. Tu dis l'importance de DeSean Watson, mais je tombe quand même pas des nues qu'un rookie pris quatrième, je crois, ou cinquième tour, soit pas au niveau de DeSean Watson. En tout cas, j'espère, sinon ça veut dire pourquoi les Browns lui ont filé autant.
C'est vrai.
Donc voilà, match 100. Ouais, match 100 en attaque, je suis pas surpris. Maintenant, match 100 en défense, tout le monde était là, ils ont juste été dominés défensivement. Donc ça, par contre, c'est peut-être un peu plus inquiétant pour la suite, parce qu'ils sont peut-être moins forts que ce qu'ils nous semblaient paraître les trois premières semaines.
C'était quoi déjà les trois premiers matchs? J'ai un trou, c'était Bengals, Steelers, Titans. Oui, c'est vrai que c'était pas les attaques les plus en forme du moment.
Ouais, on s'est peut-être un peu emballé défensivement pour eux, un peu rapidement, quoi.
C'est vrai que c'était pas tout à fait les meilleures attaques. Donc, ce sera à surveiller, en tout cas, le niveau défensif de cette équipe de Cleveland. On fait une petite pause et puis on se retrouve juste après pour le reste des matchs.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Direction Londres pour la deuxième partie des matchs, messieurs. Jacksonville Jaguars à domicile, à Wembley évidemment, contre les Atlanta Falcons. 23-7 pour Jacksonville, le premier des cinq matchs européens de la saison. On rappelle, il y en a encore un ce dimanche à 15h30. Raphaël, il sera d'ailleurs, Tottenham Stadium. Jaguarsville, ça va être sympa, tiens, ils en parleront. Bon, ça va être pour la preview, mais ça va être sympa. Question simple, les Falcons doivent-ils changer de quarterback? Des fois, il faut aller droit au but. Raphaël.
Oui, ils peuvent tenter le coup Taylor Heinicke, parce que Desmond Ridder semble pas capé pour faire avancer cette attaque. Et vu le contexte dans la division, les Falcons ont peut-être une fenêtre de tir pour tenter quelque chose. Je la trouve pas énorme, mais ils ont peut-être malgré tout une fenêtre de tir avec un quarterback meilleur. Maintenant, je reste très sceptique quand même sur le fait que Heinicke soit le gars qui te permet de passer à ce cap-là. Donc, franchement, dans les faits, tu me dis, est-ce que il faut changer Ridder? Je te dis oui. Maintenant, pour Heinicke, est-ce que ce que Heinicke va t'apporter en plus vaut vraiment le? C'est une certitude au point de ne pas donner plus de matchs à ton quarterback qu'à 12-13 matchs, tu vois, ton jeune quarterback. J'ai un doute là-dessus quand même.
Je rappelle pourquoi je pose la question. Atlanta, qui a jamais vraiment été dans le match, Desmond Ridder est intercepté deux fois de suite, sur deux passes de suite. La première, c'est un pick six qui met son équipe dans un trou à 17-0. Donc, il y a des bons coureurs, il y a une défense plutôt compétente, il y a des receveurs et des cibles plutôt compétentes. Mais c'est vrai que, après, moi, pour te dire, ce que je m'explique pas, c'est l'attachement à ce point-là à Ridder maintenant. C'est-à-dire que c'est un choix du troisième tour. C'est pas non plus un mec que t'as signé très cher dans la free agency, que t'as drafté très haut. Donc je comprends pas pourquoi ils veulent absolument se mettre cette pression que ce soit lui, c'est-à-dire qu'il peut Heinicke va être un tout petit peu au-dessus, je pense pas non plus que ce soit un énorme step up et qu'il t'emmène en playoff ou loin en playoff, mais au moins il y aura quand même des hauts plus hauts, et voilà, et ça empêche pas Ridder d'apprendre un peu derrière et éventuellement de revenir l'année prochaine s'il croit vraiment en lui, mais je comprends pas en fait pourquoi j'ai vraiment l'impression qu'on s'acharne sur un numéro 2 de la draft ou un truc comme ça, tu vois. C'est plus ça que je m'explique pas. Lucas, tu garderais Desmond Ridder, toi?
Moi, je suis plutôt de l'avis de Raph, dans le sens où, bon, Tyler Heinicke, ils l'ont vu, ils l'ont depuis le début du camp. On l'a vu l'an passé aussi à Washington. C'est pas non plus un quarterback qui a été extrêmement impressionnant. Alors oui, on s'attache à un joueur à qui on n'a pas forcément promis beaucoup de choses, qui n'arrivait pas avec beaucoup d'attentes et d'espoir. Mais c'est vrai que, est-ce que le plafond est beaucoup plus haut pour Heinicke que pour Ridder? Je sais pas, au final. Parce que j'ai l'impression que celui de Heinicke, on le connaît. Celui de Ridder, on le connaît pas encore. Et quitte à tenter quelque chose, on tente celui de Ridder. On parle des deux interceptions, mais sur les sept derniers matchs de Ridder, il en avait lancé qu'une. Alors, il avait pas été incroyable.
Ouais, mais il lance pas du tout, en fait. C'est pour ça.
Oui, mais.
Si tu lui fais pas lancer, il lance pas d'interception.
C'est vrai. C'est mécanique. Mais, bon, je pense que c'est pas la solution long terme. Je pense que c'est peut-être pas un joueur, un franchise quarterback, mais je suis pas sûr qu'ils en aient un dans l'effectif et que Heinicke pourrait leur faire aller en playoff ou en tout cas faire un changement drastique. On parle beaucoup de Drake London, on parle beaucoup de Kyle Pitts, on parle beaucoup de ces joueurs qui sont censés être des difference makers, de faire des différences, des playmakers. Mais c'est vrai que le quarterback les aide pas. J'ai pas l'impression qu'ils aident beaucoup leur quarterback non plus.
En fait. Ouais, moi je pour compléter, préciser, c'est un peu ça, c'est que si vraiment Atlanta pense que Ridder est son quarterback du futur et veut continuer avec lui dans les années à venir, je vois pas bien l'intérêt de le remplacer par Heinicke. Tant pis qu'il continue à apprendre, il a peu de matchs en NFL, qu'il continue à apprendre et ça les mènera là où ça doit les mener. Mm. Par contre, si effectivement après 13 matchs Arthur Smith est convaincu que ça sera pas leur quarterback pour les 2-3 prochaines années, bon bah oui, alors autant le faire sauter et mettre en fait, Heinicke, espérer faire un run en playoff et on s'amuse.
En fait, je fais un lien avec ce qu'on a dit au début de l'émission sur CJ Stroud et Anthony Richardson. C'est juste, est-ce qu'il y a des moments sur les matchs que Desmond Ridder a joué, il en a joué précisément 8, est-ce qu'il y a des moments dans ces matchs là où vous avez vu des actions qui vous ont fait dire ah ouais, c'est un futur très bon joueur?
Non, mais maintenant, est-ce que 8, c'est le bon échantillon pour ça? Tu vois, j'en sais rien. Enfin,
ça commence déjà à être pas mal, 8 matchs. Enfin,
c'est même pas une saison.
Tu vois, 8 matchs. Alors, bien sûr, il y a plein de joueurs qui, même après leur première saison, sont mauvais, mais il y a quand même des flashs dans ces matchs. Je suis d'accord.
Maintenant, il y a zéro flash et c'est pas comme si t'étais dans une équipe pourrie, tu vois.
Oui.
Parce qu'il y a, mais, il y a 1000 coureurs, il y a Kyle Pitts, il y a Drake London, il y a une défense qui est correcte. Et en 8 matchs, il a lancé 5 touchdowns. Tout à l'heure, on parlait d'être au 21e siècle. 5 touchdowns en 8 matchs pour un quarterback en 2023. Wow.
Ouais, mais je trouve que là, c'est beaucoup le quarterback. Et on a l'impression que cette équipe, elle est incroyable, mais que
non,
en changeant. J'ai l'impression que, moi je suis d'accord hein, qu'il est inquiétant, mais j'ai l'impression que c'est que le quarterback et que en fait tout le monde autour fait le boulot sauf lui et qu'il tire cette équipe vers le bas. En attaque en tout cas, j'ai pas l'impression, l'année dernière c'était à peu près la même chose non plus, que ça soit le seul problème de cette équipe et qu'en le changeant, parce que auquel cas il faudrait mettre un quarterback à peu près moyen et puis l'équipe deviendrait de suite.
Donc serait meilleur.
Bah je suis pas sûr. De toute façon, à mon avis, on va avoir l'occasion de le voir à Heinicke peut-être, parce que au bout d'un moment, ils vont peut-être le mettre. Je suis pas sûr que ce soit un changement drastique et que cette équipe-là roule sur tout le monde d'un coup en attaque.
Non. Encore une fois, je dis pas rouler ou quoi. Je dis que ce serait un peu mieux, mais Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est limitant. Encore une fois, c'est pas contre lui, il peut peut-être progresser plus tard, mais encore une fois, je comprends pas l'attachement à un troisième tour comme ça à ce point-là, mais pourquoi pas. Du côté des Jaguars, ça a été un peu mieux, même si ça, c'est pas encore aussi impressionnant qu'annoncé. Voilà. Est-ce qu'on est coincé aussi par rapport à nos attentes en fait avec les Jaguars? Parce que il y a un an, on aurait dit bon, victoire 23-7, maîtrisée pour les Jaguars, c'est très très bien, c'est génial, etc. Mais j'ai l'impression qu'on en attend tellement cette année. Que là, on a du mal à se satisfaire d'un match où finalement, ils n'ont pas été très efficaces au sol. Trevor Lawrence n'a pas particulièrement flambé. Ils ont fait le minimum, quoi, Raphaël.
Ouais, offensivement, ça reste vraiment en demi-teinte. C'est pas ce qu'on attendait de leur part. Effectivement, tu as énoncé hein, l'attaque au sol qui s'installe pas vraiment, le jeu de passe qui est alternant. Christian Kirk qui avait été vraiment une bonne surprise l'an dernier. Alors, sur ce match, on le revoit un peu plus que les semaines d'avant, mais sur les trois matchs d'avant, Christian Kirk avait un peu tendance à disparaître. On jouait pas trop sur lui, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses un peu étonnantes en attaque, on l'a déjà dit. La bonne nouvelle, je trouve, dans ce match, c'est la défense. La défense a quand même été globalement costaud, et surtout le pass rush, c'était un peu un des facteurs X de la saison de Jacksonville, ce pass rush avec tous les hauts choix qu'ils avaient misé dessus à la draft. Il fallait que ça finisse par payer, et là, en tout cas, sur ce match, ça a été le cas, ça fait la différence. Voilà, maintenant, comme tu dis, est-ce qu'ils vont réussir à le faire plus, moins, à faire à suivre.
Lucas, on retient surtout la défense alors de ce match.
Oui, la défense. Après, en effet, ils sont pas aussi impressionnants que on les imaginait, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'ils gagnent ce match-là. Lawrence n'a pas forcément été très bon à la passe, mais il a été important au sol et il a pris les yards quand il fallait au sol. Écoute, au moins, ils ont gagné. Ils ont bien démarré ce match-là. Ils se sont rendus le match facile aussi, avec 10 minutes de possession dès le premier quart-temps, 146 yards à 5 dès les 15 premières minutes. Donc, écoute, ils ont gagné ce match. Je suis pas sûr qu'on le retienne à la fin de la saison, mais au moins, ils l'ont gagné.
Les Jets 20, Chiefs 23. Les Chiefs menaient 17-0 avant de se faire rejoindre à 20 partout dans le troisième quart. Ensuite, le match s'est fermé avec juste un field goal des Chiefs pour passer devant et l'emporter. Zach Wilson qui fait un match solide, mais à 20 partout, les Jets ont eu deux possessions bouclées par un punt. Mené 23-20, il a perdu un fumble, et Kansas City a mangé le reste du chrono derrière. Est-ce que les Jets ont laissé passer une grosse occasion, Raphaël?
Oui, ils ont laissé passer une grosse occasion parce que le contexte du match fait qu'ils ont la possibilité de l'emporter. Donc forcément, c'est une belle occasion de rater. Qu'ils ratent pas tout seuls, on va pas épiloguer là-dessus. Ils sont pas forcément bien dotés en termes d'arbitrage. Voilà, c'est la saison. On a toujours l'habitude ici de dire que ça s'équilibre. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à croire. Donc je maintiendrai cette idée-là. Maintenant,
Il y a clairement des très grosses erreurs, ce qui ressemble à des très grosses erreurs d'arbitrage, en tout cas. Après, on va pas tout reprendre et tout. Après, le fait est que même si il y avait eu l'interception validée, même si il fallait finir et ils finissaient pas, c'est-à-dire qu'ils ont eu trois balles, dans les faits, ils ont eu trois balles de match.
Oui. En plus, pour le coup, moi, l'interception me choque pas tellement. Pour moi, il y a vraiment faute des Jets là-dessus. C'est plus un gros holding sur une troisième tentative à la course de Mahomes qui, à mon avis, change un peu le cours du jeu. Et qui leur redonne une balle de match potentiellement. Voilà, bon, bref, pour le détail. Comme tu dis, ils ont eu des ballons pour l'emporter. Ils ont pas réussi à conclure. C'est dommage parce que, objectivement, Zach Wilson sortait de son meilleur match en carrière chez les Jets. Difficile de dire autrement, donc c'est un peu dommage. Maintenant, ce qui est le plus intéressant pour les Jets, c'est de savoir est-ce qu'ils arrivent à construire quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on retombe dans les travers de la semaine prochaine. J'ai ma petite idée là-dessus, mais en tout cas, ça sera ce qui est le plus intéressant à suivre pour les Jets. Après, sur le match des Jets, que dire, quand t'assistes enfin sur Garrett Wilson, bah il se passe des choses, parce que Garrett Wilson est un super receveur, donc il faut insister sur lui, voilà.
Non mais oui, c'est un bon match, tu joues sur Wilson. Moi je parle d'occasion manquée, parce que dans le grand ordre des choses, quand tu limites les Chiefs à 20-23 points en NFL, c'est à peu près les seuls moments où tu peux les prendre, donc c'est pour ça que je dis occasion manquée, Lucas, mais c'est vrai que c'est un match solide, mais il manque la finition, quoi.
Oui. Et à l'image de Zach Wilson, il a ce beau drive pour le touchdown notamment. Mais c'est vrai que ça finit pas. Ils finissent pas. Ils ont la balle de match, comme tu dis, et il manque cette occasion de s'acheter un peu de répit. Et Zach Wilson aussi, de s'acheter un peu de répit, de continuer avec un petit peu plus de sérénité. Et là, malheureusement, parce que battre le champion en titre, ça a de la gueule. Et de provoquer certaines erreurs de Patrick Mahomes, de profiter d'un match un peu forcément un peu plus en dedans, parce qu'il y a des erreurs que Patrick Mahomes évite généralement. Malheureusement, ça reste une défaite et une défaite de plus. Donc c'est vrai qu'on peut s'attarder sur des choses qu'on a vues, des belles choses qu'on a vues, mais la finalité en NFL, il faut gagner. Et là, ça, c'est une défaite et c'est dommage.
Et puis il y a du solide au milieu, mais le problème c'est qu'il manque la fin et il manque le début aussi, parce que tu prends un 17-0 et tu commences avec 3 points.
Donc, oui, bien sûr. Le match n'est pas parfait de A à Z. Hein, on retient par le score en se disant ok, ils sont pas si loin, mais effectivement, la prestation n'est pas bonne de A à Z. Il y a un bon carton, un très bon carton et demi offensivement. Défensivement, c'est trois bons cartons, on va dire ça comme ça. Voilà. Ah, oui,
après,
oui.
On sait que c'est aussi un peu le. Encore une fois, c'est un match solide à confirmer. Il y a déjà eu des aperçus de temps en temps avec Wilson qui n'ont pas été confirmés derrière. Donc, à voir s'il confirmera peut-être cette fois. Mais ça reste aussi qu'un match, quoi.
Oui,
c'est difficile de laisser le bénéfice du doute sur un seul match, mais c'est un match, donc c'est un match solide. Quand il joue bien, on le dit. Mais voilà, faudra confirmer et faudra surtout conclure, parce que c'est vrai que pas de bol le fumble, mais c'est aussi ce qui différencie un bon quarterback d'un très bon quarterback, c'est qu'il perd pas un fumble au moment de la balle de match non plus, quoi. Donc
la différence de l'autre côté, Patrick Mahomes c'est pas forcément très bon dans les standards Mahomes. Il lance des interceptions qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il est dans un match sans quasiment. Par contre, quand il faut faire ce drive de la gagne et parcourir en 14 jeux 75 yards pour aller récupérer le field goal et pour gagner ce match, on sent l'expérience et on sent que à ce moment-là, on oublie un petit peu ce qui s'est passé avant. J'ai peut-être pas été très bon, pas autant qu'il fallait, mais par contre, quand il faut assurer et aller gagner le match, je le fais et on s'évite une polémique de on a perdu face aux Jets, on a gagné, on n'a pas été bon, on passe à la semaine prochaine.
Ben c'est ce que tu dis bien, Lucas, c'est qu'à la fin, le but, c'est de gagner aussi, quoi. Donc, moi, c'est un bon match, mais il a perdu un ballon, ça me rappelle toujours trop. J'ai des flashbacks, tu sais, syndrome post-traumatique de Jameis Winston à chaque fois. Le fameux, il est très bon, sauf quand il lance des interceptions. Il est très bon, sauf quand il perd un ballon décisif. Voilà. Donc, t'es pas très bon parce que t'as pas gagné. Donc, ça quand même, c'est un très gros point noir sur un match solide, mais c'est quand même un point noir de perdre un ballon décisif. Donc, voilà. Hein, malheureusement, à la fin, il n'y a pas la victoire. Les Chiefs, tu le disais, Mahomes est intercepté deux fois. Stat quand même dingue. Je ne suis pas allé creuser dans toute la bio des Chiefs d'Andy Reid, mais combien de fois on a eu des Chiefs avec plus de yards au sol que dans les airs? 204 yards au sol contre 203 yards à la passe.
Ouais. Bah, en tout cas, depuis que Mahomes a pris le oui. pouvoir, on va dire ça, pas
ah
beaucoup.
Ouais.
Pas beaucoup, c'est sûr. Mais c'est à quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'attaque des Chiefs. Je trouve le fait que Pacheco monte en progression, en importance dans ce système offensif, ça permet de combler certaines lacunes du jeu de passe par moment. Et ça, c'est vraiment vital pour les Chiefs, parce que si sur certaines séries offensives, tu peux aussi un peu te reposer sur la course, tout de suite, ça devient vraiment plus embêtant. Et ça peut, en tout cas, ça peut suffire à donner suffisamment de balles à Mahomes pour mettre la touche finale et donc c'est le petit point positif dans ce match franchement moyen dans les standard Chiefs, quoi.
Mais eux ils s'en fichent, ils jouent pour eux, ils jouent pas pour octobre en fait. On parlait de gagner les matchs, mais eux, ils jouent pour gagner le titre.
Oui.
Donc,
ça, oui.
Et en même temps, vaut mieux les gagner ces matchs d'octobre, parce que désormais, il n'y a plus qu'une équipe qui est qualifiée en bye week et ça risque d'être serré jusqu'au bout, comme ça l'a été la saison passée. Donc, c'est vrai que vaut mieux gagner ce genre de match-là. Un tout petit mot sur les Chiefs. On parlait la semaine dernière de Jawan Taylor, qui avait beaucoup de pénalités. Il concède un safety encore sur ce match-là. C'est pas, ça impacte pas le résultat final. Mais encore une fois, attention à ce genre de choses quand ça sera des équipes qui pourront finir ce genre de match.
Allez, Giants 3, Seahawks 24. C'était le match dans la nuit de lundi à mardi. Un calvaire pour Daniel Jones. 10 sacs encaissés pour lui, 2 interceptions. Il a été massacré. Il y a un 11e sac qui est sur Paris Campbell qui a eu le malheur de tenter une passe. La défense des Seahawks, ça fait... Allez, non, ça on prend aussi. Ça fait 11 sacs sur le pauvre receveur qui s'est retrouvé avec le ballon sur une trick play. Difficile de reprocher grand chose à Daniel Jones quand même sur un match où, grosso modo, c'était on te donne le ballon et derrière, il n'y a pas Saquon Barkley, il n'y a pas ta ligne, il n'y a pas des receveurs incroyables. Daniel Jones, à sa part, mais c'est quand même hyper compliqué là dans des conditions. À 10 sacs, ça devient un peu record quand même. Raphaël, t'as pas l'air.
Je suis partagé, désolé, je fais un peu partie de l'école. Les sacks sont de la responsabilité du quarterback en partie. Je ne crois pas que ce soit que la ligne offensive.
Ok.
J'estime que des fois, le quarterback bouge mal aussi dans sa poche, anticipe pas assez, se débarrasse pas assez vite du ballon. Je dis pas que c'est le cas sur les 10 sacks, mais je dis que sur certains, pour moi, c'est le cas. Et puis, il y a cette très, très vilaine interception qui est retournée en touchdown pour Devon Witherspoon, qui là, pour le coup, elle est totalement pour lui. Première lecture, il ne fait que fixer son receveur, il ne bouge pas la tête une seule seconde. C'est le quarterback dans la ligue qui lance le plus sur ses premières lectures. Les Seahawks, Devon Witherspoon l'a dit en interview d'après-match, on sait qu'il lance toujours sur sa première lecture. J'ai vu qu'il ne regardait que lui, j'y suis allé. Et ça, désolé, quand tu payes 40 millions ton quarterback, c'est pas possible en fait. Et ça, pour le coup, et on a vu aussi les images de Brian Daboll un peu énervé sur l'interception. Voilà, encore une fois, c'est pas facile. Je pense qu'aussi le fait de se prendre de la pression toute la nuit fait que peut-être tu prends de moins bonnes décisions à un moment. Je l'entends. Mais attention, Daniel Jones, il a des blessés sur sa ligne offensive. CJ Stroud aussi, il en a. Il lance pas des interceptions comme ça, tu vois. C'est tout con, mais
Après, moi,
attention,
j'ai l'impression que
attention.
le contrat, c'est un faux débat au sens où ils l'ont signé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et on sait très bien, enfin, je sais pas, il n'y a personne qui croit qu'il vaut 40 millions par an et que c'est un excellent
Non,
quarterback, on est
le
d'accord.
montant, t'as raison, le montant est peut-être pas le bon argument, mais malgré
Ouais.
tout, il est prolongé à long terme, donc c'est qu'il
Oui,
croit en lui
oui.
en tant que, tu vois,
Mais je
enfin,
crois qu'ils étaient coincés par sa saison qui sort un peu de
peut-être,
nulle part l'an
peut-être.
dernier. Et je sais pas, pour moi, c'était quand même toujours cette année, on était un peu dans l'expectative. On va pas retomber dans le débat de Daniel Jones
Oui,
éternel, mais
pardon, c'est un peu long.
non, mais tu vois, je sais pas, Lucas, quelle est sa part pour toi dans tout le désastre de lundi soir?
Bah, moi, en tout cas, dans l'école de les sacks, c'est aussi pour les quarterbacks. Je suis assis au premier rang à côté de Raph, parce que je suis assez d'accord. C'est pas que la ligne. On avait eu ce débat il y a quelques années déjà avec Carson Wentz, qui prenait beaucoup de sacks, et on disait la ligne est pas bonne. Et on disait aussi, ouais, mais il garde trop le ballon, il prend des mauvaises décisions. Daniel Jones, il y en a certains sur les 10, du coup, puisque le 11e n'est pas sur lui. Sur les 10, il y en a qui sont pour lui. Et puis, il y a un fumble aussi. On sait que ça a été un gros problème pour lui en début de carrière. Ça a été un peu mieux l'an passé. Mais le fumble, il fait du mal. Je crois que c'est un fumble qui est retourné pour un touchdown d'ailleurs.
Non,
Donc,
non, non, il n'est pas retourné
non,
pour
pas
un touchdown,
celui-là.
mais
Pas celui-là. Mais il y a eu tellement de fumbles de quarterback, je crois que c'est Mac Jones, je le confonds, mais il y a un fumble qui fait mal. Et voilà, ces pertes de balles là, je suis d'accord. Alors, il n'est pas aidé par tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai que peu importe le montant du contrat, quand on a un quarterback, on s'attend à ce qu'il fasse pas des erreurs grossières comme celle qu'il fait parfois. Et peu importe la ligne, malheureusement, dans cette ligue.
Donc j'aurais dû titrer mon résumé de match Daniel Jones, le Carson Wentz du pauvre, c'est ça?
Tu te serais fait des amis. La violence.
On te laisse toute la responsabilité de ce titre, mais bon.
Faut aller chercher les visiteurs sur les réseaux sociaux. Hein. Maintenant, on est.
Je sais.
Il
C'est bien.
faut mettre il faut mettre tous les atouts de notre côté. Du côté de Seattle, ça a été une soirée un peu étrange du coup parce qu'ils n'ont pas forcé particulièrement en attaque. Il y a des points qui sont ramenés par la défense. Là, pour le coup, c'est vraiment une victoire très très belle victoire défensive. Bobby Wagner au sommet de son art malgré l'âge, il a 17 plaquages. Je crois qu'il a 2 sacs en plus. Devon Witherspoon, le rookie qui réussit une grosse interception. Ils ont perdu leur premier match, mais là ils se sont bien remis dedans. Hein, 3 victoires de suite pour Seattle. Raphaël, ça réimprime quand même une vraie identité défensive avec Pete Carroll.
Ouais, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'an dernier, ils avaient gagné tous leurs matchs grâce à l'attaque. Hein, globalement, on peut le résumer comme ça. Cette année, ils arrivent enfin à gagner des matchs, non pas grâce à l'attaque, mais à la défense. Et ils ont gagné d'autres matchs grâce à l'attaque. Donc ça y est, ils commencent à trouver un peu une dynamique des deux côtés du terrain. Ils se sont mis à battre toutes les équipes qu'ils devaient battre. Ça aussi, c'est quand même plutôt positif pour une équipe de Seattle qui est un peu milieu de tableau, outsider pour une place en playoff, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, la dynamique est très positive et hâte de voir la suite. Ouais.
Eagles 34, Commanders 31. Les Commanders qui ont égalisé à la dernière seconde du temps réglementaire pour arracher la prolongation. Ils ont calé dans la période supplémentaire. Philadelphie marque un field goal pour l'emporter. C'est mal payé pour les Commanders quand même, qui ont bien stoppé le jeu au sol des Eagles, qui ont été plutôt opportunistes. On parlait de jeune quarterback. Sam Howell est plutôt bien rebondi. Il a fait un match catastrophique la semaine dernière avec 4 interceptions. Bon, là, il va quand même chercher un touchdown. Important en fin de match. Lucas, t'as pas vu d'éléments, je te vois hocher la tête, t'as pas l'air convaincu.
Non, 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 je me disais que en effet, ils avaient bien je notais ta réflexion ils avaient bien stoppé le jeu au sol, c'est vrai, mais du coup, ils se sont fait punir dans les airs. par Jalen Hurts et Jay Brown. Et c'est pas particulièrement cette défense, c'est surtout pour moi le symbole d'une équipe des Eagles qui est capable de gagner là où il faut gagner, ou en tout cas, comme on dit, prendre la défense, ce que la défense donne. Ça faisait 3 semaines du coup qu'ils n'avaient pas réussi vraiment à développer leur jeu aérien, un peu comme l'an passé. Et Jay Brown a râlé, ça a été mieux la semaine dernière, et c'est beaucoup mieux cette semaine. Alors oui, on s'est arrêté sur cette image où il râle, mais parfois, quand c'est sain, pourquoi pas? Parce qu'on le voit, ils ont peut-être changé le plan de jeu, ou en tout cas, ça a peut-être discuté, et on le voit que là, ben, l'attaque devait passer par les airs, ils l'ont passé, et ils ont gagné. Ils étaient un petit peu en difficulté au début, avec 10-0, et puis ils sont bien revenus, ils gagnent à la fin en prolongation. Les Eagles, pour l'instant, ils ont tout juste.
Ils ont tout juste, et tu disais, ils sont tellement multidimensionnels. Ils gagnent pas de manière impressionnante, mais ils sont à 4-0. Raphaël, c'est un peu la marque des grandes équipes. En tout cas, des équipes hyper solides, c'est ce que disait Lucas. Ils peuvent gagner de plusieurs manières.
Ouais, c'est ça, on l'avait déjà un peu vu l'an dernier, hein, cette capacité à gagner de plusieurs manières. Ils le reproduisent cette année. Alors, c'est pas encore de manière. Pour le coup, c'est pas très joli, mais là, Lucas le disait tout à l'heure, en septembre-octobre, tu prends les victoires, point. La manière, on verra après. Et bon, tout n'est pas rassurant, mais écoute, ça gagne. Moi, enfin, je pense que ça va progressivement monter être en progression. Donc, je suis pas inquiet outre mesure. Lucas.
Surtout que ils ont, je crois, les Jets et les Rams, il me semble, sur les 2 prochaines semaines. Ça peut finir en 6-0 assez facilement, entre guillemets. Après, le calendrier sera plus compliqué. Je me suis noté Dolphins, Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers. Donc, ça va être compliqué. Mais quand on arrive à potentiellement 6-0 avec de la confiance emmagasinée de l'an passé et de ces 6 premiers matchs, ça peut faire mal. Donc, je suis assez d'accord avec Raph.
Et Jaybron, on parlait des airs, et Jaybron, 9 réceptions, 175 yards, 2 touchdowns. Devonta Smith prend 7 ballons aussi. Jalen Hurts ne lance pas d'interception, il finit à 319 yards et 2 touchdowns avec un 25 sur 37. Je pense qu'on peut résumer ça, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Victor Roulier n'a jamais été aussi détendu.
C'est
On
vrai
le
qu'il est
sent, hein.
détente. Ouais, je
Voilà.
suis d'accord.
On le sent sur le chat de la rédaction, je pense que ça résume bien le début de saison des Eagles. Panthers 13, Vikings 21, les Vikings qui étaient menés en début de match, finalement ils marquent 2 fois dans le troisième quart pour l'emporter, dont un touchdown défensif. Est-ce que la défense serait enfin une des satisfactions de ce match, avec Harrison Smith notamment, qui sort un grand match, Lucas?
Oui, alors je suis désolé, j'étais resté sur les Commanders et je me disais qu'ils auraient peut-être dû y aller à 2 points tout à l'heure. On n'en a pas parlé, mais
Oui,
quand
c'est
ils
vrai.
égalisent tout à l'heure, bon, on
C'est vrai,
passe
oui,
au
c'est vrai
match
qu'ils
d'après.
avaient l'occasion de gagner en tentant à 2 points sur le dernier touchdown du match, c'est ça que
Et
tu veux
j'aurais
dire.
bien aimé avoir vos avis sur ces 2 points. Je pense
Ça
que
se
Ron Rivera
tente.
aurait pu la tenter.
Alors, je sais pas si tu as vu la déclaration, par contre, Rivera a expliqué pourquoi il n'y est pas allé.
Ah non, je suis passé à côté de celle-là.
Alors, il l'a dit, je sais pas si ses joueurs apprécieront, mais en gros, il a dit ils étaient rincés.
D'accord,
Il a dit
bah écoute,
notre attaque était rincée, donc j'ai préféré pas y aller.
Oui, et aller en prolongation et du coup continuer le match.
Voilà. Bah,
Voilà.
comme ça, ils ont calé en prolongation plus tard.
Voilà, ok. Bon, autant pour moi. Je suis passé à côté d'informations, mais c'est vrai que merci de me la donner parce que du coup, ça me fait sourire.
Bah, ça
Du
donne
coup.
tout son sens à la décision.
Voilà. Et du coup, je suis complètement passé à côté de ta question, donc je suis désolé.
Je ne sais plus. Oui, victoire défensive des Vikings. Est-ce que c'est la satisfaction de ce match?
Oui, du coup, la réponse est oui. Brian Flores qui s'améliore un petit peu avec sa défense. C'est vrai que c'est la satisfaction. Ils encaissent que 6 points. Ils marquent un touchdown. Il y avait beaucoup de pression sur Brian Flores. Il est arrivé avec un petit peu de hype quand même. Même c'est vrai que s'il n'a pas des armes incroyables dans cette défense, elle pouvait performer un petit peu mieux que ce qu'elle a performé depuis le début de la saison. Et on a enfin vu un bon match. Donc c'est un bon signe de ce côté-là du ballon.
Harrison Smith est à 3 sacs quand même, bien pris du poil de la bête, Harrison Smith. Raphaël, Bryce Young, du coup, c'est difficile à juger parce qu'il prend beaucoup de pression. Il a 25 sur 32, mais avec 204 yards. C'est un match difficile. Là, pour le coup, encore une fois, la défense était très en forme en face. Et il n'a pas beaucoup de choses autour de lui, Bryce Young.
Ouais, effectivement, il a peut-être pas beaucoup d'armes, pas aidé par la ligne, et lui-même ne cède pas beaucoup, je trouve. Il est un peu perdu en ce début de saison. Bryce Young, c'est un quarterback rookie, hein, je vais pas l'assassiner après 3 matchs, parce qu'en plus, il manque celui de la semaine dernière. Mais oui, c'est un peu compliqué. Bon, et du coup, cette attaque, de manière générale, qui est déjà pas très talentueuse, quand en plus elle est pas aidé particulièrement par son quarterback, bah tout de suite le résultat devient compliqué à tenir. Et s'il n'y a pas cette interception retournée de 99 yards de la défense, les Panthers sont même encore plus loin du compte. Offensivement, en tout cas en scoring, il y a en plus 7 points de la défense. Donc je veux dire, c'était vraiment compliqué en attaque. Saison de reconstruction offensive, hein, je
Tu l'as dit sur Minnesota, il y a un pick six de Kirk Cousins, donc ils ont marqué que 14 points offensivement. On a beaucoup parlé de la défense. Est-ce que c'est rassurant quand même pour Minnesota malgré cette prestation offensive?
Disons que la prestation offensive nous en joue pas, mais bon, ils ont quand même prouvé depuis le début de la saison que pouvait être bon dans ce secteur-là. En plus, le sol est plutôt bon. Mathisson a bien aidé sur ce match-là. Donc, j'aurais tendance à croire que c'est plutôt une petite erreur de parcours et plutôt me rassurer sur le fait que la défense va mieux, parce que c'est souvent ça quand même qui a fait défaut aux Vikings depuis le début de l'année. Donc, je vais plutôt partir sur ça. Mais c'est vrai que, pour parler de Bryce Young, messieurs, c'est quand même le premier choix. Et il va être lié à CJ Stroud toute sa carrière, comme ont pu l'être Mariota et Winston. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est lui qui est premier et l'autre qui est deuxième. On est très tôt dans leur carrière, mais c'est vrai que c'est pas un bon signe.
Est-ce qu'il y a des cas comme ça de mecs draftés liés qui ont tous les deux réussi, ou est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre, ou aucun des deux dans le cas de Mariota et Winston?
Ou le deuxième a mieux réussi que le premier?
Non, mais je veux dire, on dit les deux joueurs sont liés. Est-ce que ça arrive que les deux fassent une carrière exceptionnelle? Il y a Elway et Marino. Alors, ils sont pas draftés l'un après l'autre, mais c'est le même premier tour qui sont un peu liés comme ça.
Rivers et Eli Manning, c'est pas trop mal.
C'est vrai. Et Ben Roethlisberger, d'ailleurs.
Ouais, c'est pas trop mal. Ce qu'ils font, c'est peut-être pas grand Hall of Famer, mais c'est pas trop mal. C'est en termes de carrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien arriver jusque-là.
En fait, en termes de 1-2, le seul qui me venait, c'était Peyton Manning, Ryan Leaf.
Ouais, bah alors là, par contre.
Là, t'as vraiment 0 à 100, quoi. Hein.
Je souhaitais aucun des deux la carrière de Ryan Leaf. Enfin, j'espère que ça va.
Non, bon, je pense que là, ils ont déjà fait le minimum. C'est à peu près.
Récemment, il y avait Goff Evans, non? Ils font 1 et 2 ou...
Oui.
Oui.
C'est pas l'exemple qui va nous aider sur le 1 et 2 qui réussissent beaucoup.
Non, c'est vrai. Il y a un sujet à regarder, en tout cas à creuser. On passe aux 49ers et aux Cardinals. Messieurs, ça ressemblait à une formalité quand les Niners menaient 21 à 3. Mais Arizona est revenu à 5 longueurs dans le troisième quart. À partir de là, San Francisco a remis le couvercle quand même avec des stops en défense et deux touchdowns de plus. Christian McCaffrey a évidemment été la star de ce match. 4 touchdowns pour lui, 106 yards au sol, 71 yards et 7 réceptions dans les airs. On va commencer doucement, ça aussi, on se le garde peut-être pour des émissions preview, mais parce qu'on a, c'est encore tôt, on va pas parler de MVP à 4 semaines de jeu, mais mine de rien, il s'invite dans la course, en tout cas, dans les articles qu'on va faire cette semaine, etc. Je suppose qu'il va être plutôt bien placé, messieurs. C'est un rouleau compresseur dingue, il est à l'image de toute cette équipe, en fait. Raphaël.
Ouais, oui, pardon, il est à l'image de cette équipe complètement. Il enchaîne les yards après contact, les plaquages cassés, les touchdowns. Et t'as l'impression que pour le moment, finalement, les 49ers n'ont presque qu'à utiliser lui pour avancer, et presque ils gardent les autres un peu au chaud pour la fin de saison, quoi. T'as un peu ce sentiment-là, ce qui est assez inquiétant pour le reste de la ligue. Mais et puis la défense est au niveau, enfin ouais, rouleau compresseur. Et mais McCaffrey, t'as raison, on en est qu'à 4 semaines, mais il mérite une mention MVP, enfin c'est certain.
Ce qui est dingo, c'est que du coup on parle même pas de Brock Purdy qui est à 20 sur 21 à la passe, il n'a raté qu'une seule passe, Lucas.
Ouais, c'est et puis il fait ça avec, je crois qu'il y a qu'un catch cumulé entre Debo Samuel et George Kittle,
qui sont
les deux joueurs dans les airs qui pourraient l'aider beaucoup. Il fait ça avec tout le reste, grâce à Kyle Shanahan aussi, Christian McCaffrey. L'attaque est imprévisible, elle peut partir de partout, comme le dit Raph. Pour l'instant, c'est McCaffrey qui fait avancer, et le jour où il y a une défense qui arrivera à arrêter un petit peu le running back, j'aime à croire que Shanahan déploiera sur les ailes. Brandon Ayuk a été très bon. C'est vrai que pour l'instant, cette équipe-là, elle fait pas trop de bruit, parce qu'en fait, on s'attend à ce qu'elle gagne et ce qu'elle gagne bien. Donc on a plus parlé des Dolphins la semaine passée, on parle plus peut-être des Cowboys ou des Eagles, mais les 49ers, va falloir se lever tôt pour les battre pour l'instant.
Il y aura un beau match la semaine prochaine contre les Cowboys. À mon avis, ce sera probablement dans les affiches de la semaine du côté de l'émission de preview. Du côté des Cardinals, c'est vaillant, mine de rien. Ils sont courageux. Il y a une 4e-7 tentée. Il y a une fin de punt réussie. Ils sont allés chercher des points. Ils sont restés dans le match. Josh Dobbs lance pas d'interception, mine de rien, face à une grosse défense.
Ouais,
il a 265 yards.
Ils font une série de 99 yards hein, quand même, qu'ils amènent au touchdown. C'est pas rien face à la défense de 49ers de remonter 99 yards sur une série menée par Josh Dobbs, comme tu l'as dit. Non, franchement, on a commencé un peu à le dire hein, les semaines passées. On l'a mis aussi avec Victor dans nos leçons de la semaine sur le site. ces Cardinals-là sont plutôt enthousiasmants de par le côté bagarreur qu'ils amènent et vaillant qu'on n'attendait pas du tout. Honnêtement, on leur promettait tellement le désert. Alors, ils ne vont pas en gagner beaucoup des matchs, on le sait, mais c'est tellement mieux en contenu. Ouais, tant mieux en plus, mais c'est tellement mieux en contenu que ce qu'on pensait que franchement, c'est appréciable, tout simplement.
Lucas, c'est quoi le point fort? C'est vraiment le coaching? Ou alors on peut dire, est-ce que même Dobbs est en train de s'imposer comme quelque chose d'intéressant?
Je sais pas. Là, on rentre dans quelque chose. J'ai du mal à imaginer qu'il fasse sauter Kyler Murray, même si tout ce qu'on sait autour de la franchise et du quarterback. Mais en tout cas, le bon signe, c'est le coaching. Parce que de faire ça avec les joueurs qu'il y a, ce n'est que bon signe quand on va imaginer que l'effectif va s'améliorer. En tout cas, ils ont l'air d'être capables de faire progresser cet effectif. C'est ce qu'on demande à un coaching qui arrive dans une équipe qui n'a pas beaucoup d'ambition, on ne va pas se mentir, cette saison. C'est de faire des bons matchs. Et limite, j'ai envie de dire, c'était un peu pour rigoler, mais j'ai envie de dire que c'est les scénarios parfaits, de faire des très bons matchs, d'accrocher des équipes, de montrer de belles choses, mais de perdre quand même pour gagner, enfin pour monter dans la draft.
On termine avec le match complètement barré de la semaine, Bears 28, Broncos 31. Les Bears menaient 28-7. Justin Fields avait passé les 300 yards à la passe sur un match, tout allait bien. Et là, ils prennent un 24-0 dans la poire et ils perdent. Est-ce que Matt Eberflus est sur la sellette, Raphaël?
Bah, il a l'air d'être sur la sellette plus que jamais. Enfin, l'équipe se tient pas vraiment. Et quand tu crois enfin que ça y est, quelque chose est créé, ça finit quand même par perdre. Alors, je pense qu'il a encore un ou deux matchs, voire trois, de bénéfice du doute pour voir si là la dynamique installée ce dimanche peut être reproduite. Mais c'est très très chaud en tout cas, assurément.
On rappelle qu'il est arrivé que l'an dernier, mais c'est vrai que l'an dernier, 3 victoires, 14 défaites, ils ont le premier choix de la draft avant de l'échanger, là 0-4. Lucas, ça fait pas longtemps, mais en même temps, il y a quand même pas l'air d'y avoir beaucoup d'améliorations.
Ouais, non, il se passe pas grand chose. Ils marquent beaucoup de points là sur ce match-là, mais c'est certainement la défense de Denver qui aide beaucoup. Ils ont quand même fait passer Justin Fields pour un franchise quarterback. Mais après, c'est vrai qu'ils trouvent toujours un moyen de perdre. Il n'y a pas d'identité. On parlait des Cardinals il y a quelques instants. On a l'impression qu'il y a une identité qui est en train de se créer. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et pour le coup, on a vraiment l'impression qu'à Chicago, ça n'évolue pas. Il n'y a rien qui se crée. Et c'est très compliqué à regarder, même. Ne serait-ce qu'à regarder, c'est compliqué.
C'est ce que j'allais te demander, ou c'est ce que j'allais vous demander, c'est que tu parles d'identité. Moi, j'ai l'impression que le problème avec Eberflus, c'est que depuis un an et demi, ça tâtonne. En fait, il y a un moment où on dit on va faire courir Fields, après on dit non, on va faire passer, et puis on va jouer comme ci, on va jouer comme ça. Ça change tout le temps, il n'y a pas de ligne directrice, et généralement, c'est quand même un signe assez avant-coureur de catastrophe en NFL, c'est rarement bon. Bon, Justin Fields, en tout cas, sur ce match, il était à 28-35, 335 yards, 4 touchdowns, une interception. Il y avait 25 yards au sol. Il y avait des signes quand même, non, c'était... Bon, Lucas, il est... Non, les deux mous, là, j'ai deux personnes
non,
qui font la moue devant moi.
Je sais pas si on fait la même, mais...
Bon, moi, c'est de la moue qu'Alain a bien identifié, alors je te laisse parler.
Écoute, moi, j'ai envie de croire que c'est peut-être le match déclic à la passe. Je me berce peut-être d'illusions, j'en conviens sans problème. Maintenant, il passe les 300 yards. Alors, c'est pas la première fois, mais c'est quand même pas loin d'être la première fois. C'est peut-être la deuxième.
Je me demande si c'est même pas la première. Hein. Je crois que c'est la première. Hein. Je vais vérifier. Vas-y, continue.
Donc voilà. En tout cas, il passe les 300 yards. Il montre enfin les flashs qu'on attendait. Alors, je comprends. Il a quand même deux saisons et quatre matchs dans les pads. Donc, c'est peut-être un peu tard pour faire ça. J'entends. Et puis de toute façon, ça demande à être prouvé, mais.
Et puis surtout,
bon,
on parle d'une équipe en face qui avait accordé 70 yards la semaine d'avant.
Oui.
On réduit voilà le niveau de talent et on arrive à une trentaine de points et à 300 yards pour Fields. Donc bon, c'est pour ça que je suis vraiment pas convaincu.
Je confirme, c'était son tout premier match au-dessus des 300 yards. Les Broncos donc un peu sauvés des eaux, bon début de match, trou noir, bonne fin de match. L'irrégularité est quand même assez dingue. Est-ce que c'est juste ça, de l'irrégularité, que ça peut se corriger avec le temps? Russell Wilson est redevenu un quarterback correct, hein, 21 sur 28, 223 yards, 3 touchdowns, aucune interception, c'est tout à fait correct. Il distribue, il y a un peu de Jerry Jeudy, un peu de Jalen McLaughlin, un peu de Courtland Sutton. Mais après, bon, il y a toujours cette défense, c'est correct, mais c'est pas dingue non plus, quoi. C'est pareil, la défense de Chicago en face, c'était pas un mur, quoi, depuis le début de l'année, donc.
Non,
Là,
non,
pareil, je sens.
c'est non, non, c'était pas un
On
mur, c'était pas un
finit sur les
mur.
deux meilleures équipes, hein.
Pardon,
Je vous ai fait un
ouais,
petit programme. J'aurais dû les mettre en premier quand on avait
oui.
encore de l'énergie, en fait, quoi.
Non, non, mais t'as comment dire, c'est pas la meilleure défense, celle des Bears, mais offensivement, ce qui continue à, je trouve, être pas inintéressant, c'est que malgré tout, ils arrivent à trouver les clés en cours de match pour remettre une dynamique offensive. Et quand tu vois sur depuis le début de saison, il y a quand même pas grand-chose à reprocher à cette attaque. Ok, elle est pas consistante sur l'ensemble d'un match, mais en termes de scoring, elle marque beaucoup plus de points que l'an dernier. Et donc là, l'effet Sean Payton est là offensivement, et Russell Wilson est mieux, et cette attaque avance. Le problème, c'est que par rapport à l'an dernier, alors que l'an dernier, ils avaient une défense qui encaissait très peu de points, cette année, c'est porte ouverte. Et c'est ça qui fait perdre Denver pour le moment, c'est cette défense. Et là, par contre,
Ben c'est sûr
je sais pas.
que l'attaque va mieux parce qu'ils ont marqué 16, 33, 20 et 31, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier.
Bah oui,
Par contre,
enfin.
en effet, ils ont encaissé 17, 35, 70 et 28. Donc,
L'an dernier, avec ces scoring-là en attaque, ils les gagnent les matchs.
Ah,
Enfin,
largement.
donc
Largement.
bon, enfin.
Mais là, en plus, la défense, c'était très compliqué. Les receveurs sont ouverts. Vraiment, alors, c'est un tout petit peu mieux en fin de match pour finir le match, mais c'est inquiétant.
Et bien c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 642 du podcast Touchdown Actu, messieurs. On remercie tous les auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. On remercie les derniers tipeurs, Antoine, Sparrow75LT, Étienne, Nicolas et Thibaut. Pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touchdown Actu en entier, at Elvola pour Lucas sur Twitter, at Raphaël underscore TDA pour Raphaël, at Alain Mattei pour moi-même. Et toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Ciao, ciao.
Et rendez-vous demain avec la preview. Je crois que c'est Raoul et Victor, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.